Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Début le 12 mars prochain de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en RDC. C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé hier mercredi lors de la cérémonie de réception de 1,7 million de premières doses du vaccin. Selon le ministre, ces premières doses concernent les personnes de plus de 55 ans, les personnes soignantes et celles à risque. Tout en encourageant la population à se faire vacciner, il signale tout de même que ce vaccin n'est pas obligatoire. Que pensez-vous de cette annonce? C'est l'objet des dialogues entre Congolais de ce soir. Et nous recevons dans cette émission Dr Michel Mouvoudi, le médecin expert en santé publique et membre du comité de sensibilisation sur les vaccins contre la COVID-19 en RDC. Bonsoir Dr Michel Mouvoudi.
Bonsoir Monsieur Guy Maté.
Docteur Vincent Okoyo, député national élu du territoire d'Opala, province de la Tchopo. Il est ancien médecin, chef des zones de santé d'Opala. Bonsoir Docteur Vincent Okoyo.
Bonsoir Monsieur Guy Maté.
Et Dany Singoma, directeur général du CNADEP et coordonnateur de la dynamique citoyenne COVID-19. Il est aussi coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile. Bonsoir Dany Singoma.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La RDC lance la campagne de vaccination contre le coronavirus de la semaine prochaine. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier mercredi à Kinshasa lors d'une cérémonie de remise des premières doses de vaccins anti-Covid, soit 1,7 million de doses. Ces dernières sont entreposées au dépôt des vaccins et d'autres produits médicaux à Kinkole dans la commune de Lancélé, ici à Kinshasa. Reportage de Jean-Pierre Edali Ikoko.
Ces premières doses d'AstraZeneca ont été officiellement remises au gouvernement par le truchement du ministre de la Santé. Ces dons de l'OMS et de l'UNICEF entrent dans les cadres de l'initiative COVAX, une initiative internationale visant à assurer l'égalité d'accès aux vaccins à travers le monde. Le ministre Étienne Longondo a rassuré les Congolais sur l'efficacité et la validité du vaccin.
Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent par rapport à ces vaccins ici. Mais nous disons au peuple congolais ceci, le gouvernement ne peut pas homologuer un vaccin qui va tuer le peuple congolais.
Avant d'appeler les Congolais à se faire vacciner.
Je demande aux Congolaises et Congolais de se faire vacciner. Même si la vaccination est volontaire, il faudrait plutôt penser à votre vie. La vie n'a pas de prix. Faites-vous vacciner.
Les représentants de l'UNICEF et de l'OMS ont, dans un élan de solidarité, promis au gouvernement leur appui à la campagne de vaccination. Notons que la RDC est le quatrième pays à recevoir les premières doses de l'initiative COVAX après le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. 20 autres pays africains se trouvent sur la liste de bénéficiaires.
Merci à vous Jean-Pierre Elali Ikoko. Docteur Michel Mouvoudi, vous êtes médecin expert en santé publique, membre du comité de sensibilisation sur le vaccin contre la COVID-19 en RDC. Le premier lot, nous venons de le suivre dans ces reportages de Jean-Pierre Elali Ikoko, le premier lot du vaccin contre la COVID est enfin arrivé ici en RDC, ce qui est une bonne nouvelle. Et on précise que c'est le vaccin AstraZeneca. Docteur Mouvoudi, pourquoi AstraZeneca et pourquoi pas Moderna, Pfizer, Sputnik V, Sinovac, Johnson & Johnson?
Monsieur Guy, merci beaucoup pour d'abord l'invitation et aussi pour cette émission qui entre en ligne de compte de ce que nous voulons faire en matière de sensibilisation pour la vaccination contre la COVID-19. Alors, pour revenir à votre question, pour le choix du vaccin, c'est un choix pays. Vous devez savoir que les pays restent très très souverains au choix des vaccins. Et donc après avoir consulté la panoplie de vaccins qui sont proposés à travers le monde, RDC, au cours de plusieurs analyses, a fondé son choix sur l'AstraZeneca. Ça c'est d'abord un choix tout à fait stratégique, partant des analyses qui ont été faites. Mais aussi, en fait, on regarde aussi la possibilité qu'on a d'utiliser un vaccin qui s'adapte à nos contextes, notamment si vous regardez la question de la chaîne de froid. Il y a des vaccins qui exigent une logistique de la chaîne de froid très robuste et qui ne peuvent pas s'adapter dans les contextes de la RDC, qui peuvent justement engendrer des coûts opérationnels très élevés. Et à ce titre-là, quand vous regardez le vaccin AstraZeneca, vous vous rendez compte justement que C'est un vaccin qui répond justement à la logistique de vaccination que nous avons. Et donc, ça pourrait aussi aider à ce que les collègues congolais ou la population qui se situe en arrière-pays puisse aussi être vaccinée. Le troisième élément, c'est qu'on a suivi tous le développement des vaccins. On a vu comment est-ce que ces vaccins ont été développés. Donc, on a toute une étude comparative qui montre les comparaisons en termes d'efficacité, en termes de sûreté. Et c'est ainsi justement qu'on arrive à ce choix-là, que nous allons devoir utiliser, comme vous l'avez suivi très bien dans les propos du ministre, avec les premières doses qui sont déjà arrivées.
Mais on se rappelle la polémique suscitée récemment en Afrique du Sud sur ces vaccins. Après que le gouvernement a obtenu un lot important d'AstraZeneca, les scientifiques de ce pays ont fait part au président de la République des conclusions de leurs recherches sur ces vaccins, en affirmant qu'il n'était pas efficace contre les variants sud-africains de COVID-19. Docteur Mouvoudi, vous, scientifique congolais, est-ce que vous pouvez rassurer la population sur la capacité de ces vaccins à immuniser les gens contre tous les variants connus jusque-là de la COVID-19?
Alors, Monsieur Guy, il y a deux volets dans votre question, hein. Donc, le premier volet, c'est que en RDC, les variants ne sont pas dominants. Donc, contrairement à l'Afrique du Sud, ici en RDC, retenez que les variants ne sont pas dominants. Et donc, c'est comme ça que nous n'avons pas ce challenge de variants vis-à-vis du vaccin. Donc, ça, c'est important. Et donc, du coup, rappelez-vous toujours ce que je vous dis. En matière de santé publique, il n'y a pas du copier-coller. Il n'y a pas de « je vais faire ce qu'on a fait à gauche, je vais faire ce qu'on a fait au nord ». Il y a une contextualisation qu'il faut prendre en compte. Et si vous prenez la question des variants, je vous informe que le variant en RDC n'est pas dominant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous regardez l'AstraZeneca, vous allez vous rendre compte justement que on insiste beaucoup sur les intervalles de vaccination. Vous allez vous rendre compte qu'on dépasse une efficacité de 90% lorsque justement on respecte les intervalles de vaccination entre 9 et 12 semaines. Eu égard à ces éléments-là, du fait d'abord que, un, les variants ne sont pas dominants en RDC, donc on ne peut pas comparer à la situation de l'Afrique du Sud. Deux, que justement, on démontre après plusieurs expériences que si vous respectez cet intervalle de 9 à 12 semaines, vous avez une plus grande efficacité. Et couplé au fait que c'est un vaccin qui répond très bien aux conditions de la chaîne de froid, eu égard à la taille du pays et aux défis logistiques que nous avons, je crois que le pays a bien fait de porter son choix sur ce vaccin.
C'est seulement hier que ce premier lot a été réceptionné par la RDC et déjà on annonce pour le 12 mars et donc la semaine prochaine le début de la campagne de vaccination. Quelle urgence y a-t-il, docteur, de procéder tout de suite à la vaccination? Vous ne pensez pas qu'il faille commencer par préparer l'opinion par rapport à cette vaccination afin d'amener cette population, n'est-ce pas, à adhérer à cette campagne?
Alors, il y a trois éléments, Monsieur Guy, par rapport à cette question très pertinente. Le premier élément, ce que vous devez savoir, que chaque jour qui passe, nous perdons des vies, d'accord? Nous perdons des vies. Donc, retenez que chaque jour, regardez le bulletin du secrétariat technique, il y a des décès. Et donc, chaque jour qui passe, nous perdons une vie, et une vie perdue est perdue. Je pense que vous comprenez ce que j'ai dit par là. Donc, deuxième élément, c'est qu'en fait, dans les stratégies de lutte contre cette pandémie, eu égard justement à sa propagation déterminante, on avait déjà dit depuis très longtemps que la vaccination est un outil très important. Je ne reviens pas sur l'histoire de la vaccination, c'est depuis les années 1700 qu'on a commencé à parler de la vaccination, donc au XVIIIe siècle. Donc retenez que ce n'est pas nouveau qu'on parle de la vaccination. On parlait déjà, on disait que au moment venu, lorsqu'on aura un vaccin efficace, on va vacciner la population. Et donc, si aujourd'hui on a un vaccin qui est efficace, si vous lisez justement les conseils de l'OMS, donc du coup, il ne faut pas traîner à le faire. C'est important de vacciner la population, surtout que justement, nous avons devant nous une maladie qui n'a pas encore prouvé des molécules de traitement efficaces. Mais aussi, quand vous regardez l'indice de propagation. Troisième élément, et c'est là je suis très d'accord avec vous, c'est qu'en fait, comme vous le savez bien, la vaccination n'est pas obligatoire. À ce titre-là, nous allons beaucoup, beaucoup travailler sur l'acceptation sociale. Nous allons vraiment travailler sur la sensibilisation. Ça veut dire qu'il y a deux urgences. Il faut à la fois prendre le bras de pouvoir, aller rapidement pour pouvoir donner cette immunité collective à la population. D'autre part, il faut travailler en urgence pour communiquer avec la population afin justement d'obtenir son acceptation. Le 12 Ok, dans une semaine, c'est dans 10 jours à peu près. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut justement intensifier la communication. Il faudra justement rassurer la population par rapport à certaines informations qui sont envoyées et qui ne sont pas correctes. Mais aussi, comme je l'ai mentionné, il faudra assurer que les gens comprennent qu'est-ce qu'on veut faire. Donc c'est ça justement le challenge et le rôle que nous devons jouer, nos personnels de santé. Et encore une fois de plus, comme on l'a dit lors des actions de lutte, c'est une question aussi de responsabilité partagée. Donc ne pensez pas qu'il y a des gens qui vont être là pour dire le contraire et ceux qui vont se battre pour dire ce qui est vrai et soigner correctement cette population ou vacciner correctement cette population. C'est une responsabilité qui doit engager tout le monde parce que nous n'allons pas vacciner sans une acceptation sociale, nous n'allons pas vacciner sans que la population ne nous accompagne, comme cela a été le cas dans les autres campagnes de vaccination.
Voilà, vous avez dit que la vaccination, c'est un outil important et vous avez raison, mais un autre aspect important, c'est les suivis. Docteur, quels sont les mécanismes mis en place pour faire les suivis des personnes qui vont bénéficier de cette vaccination? Je pose la question pour deux raisons. D'abord, il est dit qu'il faut 2 doses par personne pour créer une immunité totale. Et qu'est-ce qui est prévu pour qu'on sache que la personne qui a reçu la première dose pourra bénéficier de la deuxième dose 2 semaines après? Et la deuxième raison, il y a un débat actuellement dans les pays qui ont commencé à vacciner leur population sur les effets secondaires de ces vaccins. Et donc, il faut surveiller les personnes vaccinées pour savoir si elles n'ont pas manifesté certains signes qu'on peut considérer comme étant des effets secondaires.
Alors, ce qu'il faut savoir, M. Guy, c'est qu'en fait, vous avez bien signalé la question des effets secondaires. Je commence par là. Comme tout médicament, le vaccin est un médicament. Vous avez des effets secondaires qui ont été documentés par rapport à l'AstraZeneca. On sait qu'il y a parfois des douleurs. Il y a des gens qui peuvent avoir des sensibilités. Il y a des gens qui peuvent avoir des prurites, donc vous grattez. Vous pouvez aussi avoir au niveau du site d'injection une tuméfaction. Vous pouvez parfois développer des malaises. Premier élément, il faut déjà informer des gens par rapport à ça. Soit que quand vous prenez la quinine et qu'on vous dit que vous allez avoir des vertiges, que vous allez avoir des bourdonnements, dès qu'on vous informe avant, ça calme. Nous avons vacciné des enfants, on a dit aux mamans, quand vous allez vacciner l'enfant, on va vacciner l'enfant, il est possible que le soir, l'enfant développe la fièvre. Donner de l'aspirine, ça va aller. Donc, ça va être important au personnel de santé d'informer déjà les bénéficiaires ce qui pourrait arriver comme effet secondaire. Et deuxièmement, c'est prendre en charge l'effet secondaire. Donc, il y aura des kits qui seront placés pour que quand quelqu'un a une fièvre, quand quelqu'un a une douleur, qu'on puisse y remédier. Ça, c'est le premier élément qui est très important. Et comme tout médicament, on a des effets secondaires aussi liés à la vaccination, mais nous allons devoir mettre en place des mécanismes pour pouvoir apatarder ces effets secondaires et suivre. C'est pour cela que on a beaucoup insisté sur le fait que quand vous vaccinez, vous devez observer la personne pendant au moins 15 minutes, donc vous devez vérifier qu'il n'y a pas une réaction. Il y a des gens qui réagissent comme à la chloroquine, vous prenez la chloroquine, vous avez des démangeaisons. Donc tout ça, c'est bien monitoré, bien documenté, et des fiches techniques vont être envoyées dans les structures où on va faire la vaccination pour pouvoir les suivre. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la mise en place des échéanciers. On sait très bien la dispersion des populations, y compris même des populations migratoires qui sont au niveau des bandes frontalières. On va mettre en place des échéanciers qui permettront de dire qui est venu se faire vacciner tel jour. Autour de telle date, nous devons chercher la personne pour recevoir la deuxième dose. Donc on va utiliser notamment l'expérience canadienne en matière de vaccination. Je vous rappelle ici que la RDC est un pays qui a une très grande expérience en matière de vaccination, surtout avec l'utilisation des réseaux communautaires qui pourraient justement aider à ce que l'on identifie ces personnes qui ont été vaccinés, qu'on s'assure que ces personnes reviennent pour la deuxième dose, et tout un suivi sera fait pour assurer justement que ces personnes ont complété leur dose, et les études vont être menées pour notamment évaluer l'immunité, la séroprévalence, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment tout un kit technique qui va accompagner ce processus. Et donc, sur ce point-là, et je termine par là, M. Guy, je crois que c'est très important que les gens comprennent que, en tant que produit de santé, en tant que médicament, le vaccin peut entraîner des effets secondaires. Et nous allons être transparents avec la population là-dessus en disant, vous pouvez avoir des maux de tête, vous pouvez avoir des frissons, vous pouvez avoir de la fatigue, mais il est important que les gens comprennent aussi que le personnel de santé sera suffisamment outillé, informé, formé même, pour la prise en charge de ces effets secondaires. Et donc, pour moi, je crois que c'est C'est comme ça qu'on peut démarrer cette vaccination et nous serons très attentifs à la population. Nous allons écouter les préoccupations de la population pour qu'à chaque instant, on soit capable d'y réagir et de manière efficace.
Merci, docteur Mouvoudi. Docteur Vincent Okoyo, député national élu du territoire d'Opala, province de la Tchopo. Vous êtes ancien médecin, chef des zones de santé d'Opala. Que pensez-vous de cette annonce qui fait état, n'est-ce pas, de l'arrivée de ces vaccins, ces premiers vaccins contre la COVID-19 en RDC?
Merci, monsieur Guy Maté. Je dois sincèrement dire que c'est une annonce qui me surprend positivement parce que, rappelez-vous, lors de notre dernière émission, j'exprimais des inquiétudes énormes par rapport à notre capacité de pouvoir conserver ce vaccin. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'apprendre que le vaccin de type AstraZeneca peut être conservé entre moins 2 et moins 8 degrés. Et donc, généralement, au-dessus de moins 10 degrés, et ce qui correspond très bien aux capacités de chaîne de froid que nous avons dans le pays. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et surtout, la deuxième chose que je voulais partager, c'est que ce vaccin ou la campagne de vaccination qui s'annonce à une population cible. Et là, j'aimerais vraiment que nos auditeurs puissent retenir que cette campagne de vaccination n'est pas généralisée à toute la population dans un premier temps. Pour quelles raisons? Rappelez-vous, lors de notre dernière émission, je disais aussi que ce vaccin coûte encore cher et qu'il fallait compter sur la philanthropie de certaines organisations, mais aussi sur l'effort de notre gouvernement. Cette campagne cible essentiellement les personnels soignants, comme Dr Mouvoudi l'a dit, mais aussi les personnes à risque, c'est-à-dire celles qui présentent des comorbidités et qui peuvent donc être exposées à des formes graves et mortelles de COVID, en même temps que les personnes âgées naturellement, parce que la mortalité est plus observée auprès des personnes âgées. Donc, il ne s'agit pas, dans un premier temps, d'une campagne de vaccination étendue à toute la population, et ça, notre peuple doit le savoir, mais une campagne de vaccination qui cible des personnes les plus exposées à la maladie et à la mortalité face au COVID. Pourquoi les personnels soignants? C'est parce que c'est le personnel, ce sont des personnes qui sont au contact des malades qui arrivent dans les hôpitaux, dans les structures de santé. Et ce personnel-là de santé être protégé, d'autant plus que c'est un personnel formé généralement, et les perdre ne serait pas une bonne chose pour la santé des millions d'autres Congolais. Donc, les premiers qui doivent être protégés, ce sont les militaires au front. Et pour nous, les militaires au front contre la COVID, c'est le personnel soignant. Raison pour laquelle je salue cette décision prise par le gouvernement de disponibiliser ce vaccin, notamment pour protéger le personnel soignant qui sont en fait les militaires au front contre la COVID-19. Mais aussi les personnes, ceux de nos compatriotes qui présentent des comorbidités, des maladies associées qui aggravent l'état de santé des personnes contaminées par la COVID et les exposent donc à une plus grande mortalité. Ce sont des personnes, par exemple, qui souffrent de l'hypertension artérielle, du diabète et qui constituent les terrains les plus dangereux face au COVID. Mais également, nous le savons tous, les personnes âgées, les personnes de troisième âge sont très vulnérables au COVID. Et la question de la cible, pour moi, est très importante. Et il faudrait que notre population le sache pour éviter des réactions de panique par rapport au début de la vaccination.
Docteur.
Parce que elle est... Oui, allô?
Justement, par rapport à cette question de la cible, vous dites que c'est un vaccin qui cible une population donnée. Vous avez précisé la catégorie de cette population. Ce n'est qu'un premier lot. Hein. Il y a aussi une autre quantité qui est attendue. Oui. Cela veut dire que lorsque l'autre quantité va arriver, on pourra étendre la vaccination à toute la population pour créer ce que vous, médecins scientifiques, vous appelez l'immunité collective.
L'immunité collective,
voilà.
Oui.
C'est pourquoi j'aurais souhaité que vous puissiez réagir à l'opinion de cet auditeur hein, qui nous appelle depuis Kinshasa. Il dit que ces vaccins sont issus des études faites sur base de la situation qui a prévalu dans les pays occidentaux très affectés par cette pandémie. Et même les essais cliniques ont été faits sur les populations de ces pays. Or, certains scientifiques parlent de l'immunité collective dans la population africaine pour expliquer le fait que l'Afrique a été épargnée comparativement aux autres continents. Alors, cet auditeur demande si ce vaccin qu'on nous amène tient compte de cette particularité de l'Afrique.
Oui, j'aimerais d'abord dire aux compatriotes que cette idée d'immunité collective n'est pas encore scientifiquement prouvé dans notre pays en Afrique. Ce ne sont que des hypothèses parce qu'on cherche à expliquer une situation selon laquelle en Afrique, le Covid-19 n'a pas fait beaucoup de ravages comme nous l'avons observé dans les pays occidentaux. Ce n'est qu'une hypothèse, mais il y en a plusieurs hypothèses et il faudrait que des études rigoureuses, scientifiques, nous prouvent que la faible contagiosité ou la faible mortalité du Covid-19 en Afrique et à une immunité préexistante, une immunité collective préexistante. Cela n'est pas encore prouvé, ça fait partie des hypothèses explicatives à la situation africaine. D'autres ont évoqué des facteurs environnementaux ou climatiques, d'autres encore une immunité croisée avec un autre germe, mais ça reste du domaine des hypothèses jusque-là. Donc on ne peut pas s'empêcher de se doter d'un outil, comme l'a dit Dr Mouvoudi, d'un outil important de lutte et de protection de la population qu'est le vaccin, en supposant que l'immunité collective est déjà acquise.
Alors, vous ne pensez pas que cet auditeur ait raison sur cet aspect études? Les études ont été faites en fonction de la situation telle qu'elle a évolué dans les pays occidentaux et les tests cliniques ont été faits dans ces pays-là, sur la population de ces pays-là. Alors, vous ne pensez pas que cet auditeur puisse avoir raison de se poser la question de savoir si le vaccin qu'on nous amène s'adapte vraiment aux réalités des populations africaines, étant donné que les recherches n'ont pas été faites ici, les essais cliniques n'ont pas été faits ici?
Oui, on peut dire partiellement, dans un sens, qu'il peut avoir raison de se poser la question. Il peut avoir raison de se poser cette question et de savoir si les résultats qu'on obtient de l'immunisation des personnes en Occident sera le même qu'en Afrique. Mais on ne peut pas, partant de cela, contester l'efficacité du vaccin sur base d'une hypothèse ou d'un questionnement qu'on se pose aujourd'hui. En fait, retenons que l'organisme humain, et pour beaucoup de maladies, et même l'anatomie humaine que nous connaissons, la physiologie humaine, elle se ressemble à bien des égards. Donc, il y a une physiologie humaine, il y a une physiopathologie humaine, il y a une anatomie humaine qui existe, et quelles que soient les races, à quelques petites différences peut-être, quelle que soit la race dans laquelle l'étude a été menée, le plus important, c'est que l'organisme humain réagit d'une certaine façon, et nous pouvons donc espérer que les études qui ont été menées en Afrique, en Europe plutôt, sont valables en Afrique, et en attendant que des chercheurs africains puissent noter par leurs études aussi des différences qui peuvent ne pas être significatives.
Merci.
Donc, de ce point de vue, c'est une question de responsabilité et d'objectivité. Et l'auditeur a raison de se poser la question, mais de là, arriver à conclure que le vaccin ne serait pas efficace, c'est un peu trop.
Merci. Dany Singoma, directeur général du CNADEP et coordonnateur de la dynamique citoyenne Covid-19. Vous êtes aussi coordonnateur entrant du cadre des concertations nationales de la société civile. Et comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris l'arrivée en RDC du premier lot du vaccin contre la Covid-19?
Ok, merci beaucoup. D'abord, c'est
comme l'a dit mon prédécesseur, je pense que d'abord au niveau de la dynamique Covid et à mon niveau propre, c'est d'abord une joie de savoir que la RDC peut recevoir ses lots de vaccins. Parce que nous avons milité avec la société civile mondiale pour l'humanisation du vaccin, pour le fait que le vaccin ne soit pas du domaine commercial, mais que ça soit du domaine des droits de l'homme. Ça, c'est une chose. Mais nous sommes aussi quand même inquiets de la façon dont le lot est arrivé, avec beaucoup de publicité, bien sûr. La communication a été plus ou moins améliorée pour faire comprendre comment ces vaccins arrivent, mais la population n'a pas été vraiment préparée. Parce qu'il y a toute la perception populaire autour de ces vaccins et qui n'a pas encore été maîtrisée ou qui n'a pas été prise en compte, on dirait, par les autorités. Parce que dans les communs de la population, si je me mets à la place de la population, parce que c'est la société civile, je sens comment les gens rejettent catégoriquement les vaccins. Ils pensent, selon tout ce qui est véhiculé par les réseaux sociaux, que c'est pour amener la mort et tout ça. Mais nous ne sommes pas de cet avis complètement. Ce que nous attendons, c'est que les autorités nous rassurent effectivement de ce que ces vaccins ne soient pas nocifs. J'ai rejoint l'auditeur qui a posé la question de savoir que les vaccins ont été produits dans des pays autres qu'ici chez nous. Ils ont été testés là-bas, alors que dans ces pays, ils ont beaucoup souffert de la Covid plus qu'ici. Ce n'est pas un fait approuvé scientifiquement, c'est un fait qui est palpable, qui est visible, qu'ici chez nous, la Covid n'a pas fait d'aussi grands ravages que dans d'autres pays. Alors on se demande pourquoi une étude dont a parlé il y a quelques temps le ministre, il parlait d'une étude sur l'immunité collective. Mais pourquoi cette étude n'a jamais été réalisée? Pour qu'on nous dise une fois pour toutes pour comment nous nous sommes comportés et qu'est-ce qui fait que ça soit comme ça. Mais si nous attendons que cette étude soit financée par l'extérieur, je pense que nous n'y arriverons pas. Et en plus de cela, on se pose des questions pour savoir, oui, c'est bien que ces vaccins répondent aux normes de notre chaîne de soins et consorts, mais pourquoi nous l'envoyer simplement sans avoir fait quelques essais ici chez nous? On sait que les gens ont refusé d'être décobés par rapport à ces essais, et maintenant, ça va arriver. On dit oui, il y a, c'est une catégorie de personnes qui va d'abord être l'objet de cette vaccination. Mais cette catégorie de personnes, c'est la population congolaise, qu'elle soit médecin, qu'elle soit infirmière ou qu'elle soit personnel soignant, c'est d'abord la population congolaise. Ce sont les mêmes gens avec lesquels nous vivons dans nos familles, ce sont les mêmes gens qui partagent notre vécu quotidien, qui sont des personnels soignants. Donc ça veut dire qu'ils ont les mêmes, ils méritent les mêmes égards et la même considération que l'ensemble de la population. Ils ne doivent pas être décobés simplement pour ces vaccins, mais il faut qu'ils aussi soient rassurés. Ça veut dire, nous, au niveau de la société civile, nous sommes confiants, nous avons confiance en notre gouvernement par rapport à ce qu'il dit, mais nous disons que des préalables n'ont pas été remplis. Parce qu'il fallait quand même passer à cette question-là de rassurer d'abord comment notre gouvernement est rassuré que ces vaccins n'est pas nocif et nous le prouver. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous dire par rapport à tout ce que la population pense, quelle est la méthode de communication qui a été mise en place pour permettre aux gens de comprendre et d'être rassurés que ça va aller. Parce que quand la question est aussi politisée à un certain moment, les politiciens en profitent, ceci, ce qui rejette, ce qui encourage, et tout ça, ce n'est pas bon pour la population. Donc nous, au niveau de la société civile, nous voulons un dialogue franc. Nous avons toujours réclamé cet espace de dialogue permanent avec ce comité de Covid pour que, à chaque instant, nous puissions partager les informations, nous puissions savoir comment sensibiliser la population par rapport à cela. Je suis d'accord et content de ce que le premier intervenant a parlé des relais communautaires, mais il faut vraiment valoriser ces relais communautaires, non pas simplement pour le suivi de ceux qui ont été vaccinés, mais aussi pour préparer la population pour la communication et leur doter de moyens, parce que les gens les connaissent et ils véhiculent ces messages et ça va aller plus loin.
Danis Mouma, donc vous préconisez un dialogue franc entre vous, société civile et le gouvernement congolais, et vous avez appris que c'est déjà les 12 que cette campagne va commencer. Vous ne pensez pas qu'il soit déjà opportun maintenant là de saisir le gouvernement pour qu'il y ait ce dialogue entre lui et vous, afin que vous puissiez voir comment vous pouvez l'épauler dans ce travail de sensibilisation, afin d'amener cette population à pouvoir accepter cette vaccination?
c'est ça, ça c'est notre démarche au niveau du cadre de concertation de la société civile. D'ailleurs, il y a le groupe thématique santé qui appelle à une consultation entre les acteurs ce samedi pour pouvoir tirer, prendre une position. Ça c'est déjà une chose, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres acteurs qui sont sur le terrain, qui travaillent et qui veulent que ce cadre soit mis en place, non pas simplement au niveau national, mais que ça soit mis à tous les niveaux, que ça soit au niveau des communes, que ça soit au niveau des provinces et tout ça, pour qu'il y ait des échanges vraiment autour de cette question et surtout sur la question de la sensibilisation. La sensibilisation n'est pas simplement le fait de donner de l'argent à des groupes de gens et de leur dire, allez dire aux gens que c'est bon, mais la sensibilisation, c'est le fait aussi de ce dialogue qui doit exister entre la société civile et le gouvernement, en lui posant des questions, en se rassurant que ce que nous allons apporter comme message à la population est un message qui est vérifié. C'est ça notre rôle, nous, en tant que société civile. Nous ne voulons pas trahir notre gouvernement par rapport à tous les efforts qu'ils ont faits, mais nous ne voulons pas aussi trahir notre population par rapport à la crainte qui est là, et nous voulons la rassurer, parce que psychologiquement, je pense, je ne suis pas médecin, mais je pense que les médecins qui sont là pour qu'un médicament puisse aussi réagir, je pense que les facteurs psychologiques sont aussi importants. Merci. Et ça, nous devons les savoir et les respecter.
Merci, docteur Michel Mouvoudi. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de questionnements dans l'opinion, des questionnements auxquels vous avez, n'est-ce pas, le devoir et l'obligation d'apporter des réponses. On va aussi écouter ces commentaires des auditeurs, parce qu'ils ont commenté, chacun a donné son point de vue par rapport à ces sujets. Vous allez réagir à ces commentaires qui viennent de Kisangani.
Grâce à Bakajika depuis la ville de Kisangani. Moi, je pense que la vaccination contre le Covid-19 est une bonne initiative, car ça va réduire le nombre de cas des personnes les plus risquées de cette épidémie. Le gouvernement congolais doit sensibiliser la population sur l'importance de ces vaccins, parce qu'elle doute encore de ces vaccins et elle interprète mal la campagne de cette vaccination. Le respect des gestes barrières contre la COVID-19 est obligatoire. Et pourquoi cette vaccination n'est pas aussi obligatoire? Et pourquoi les enfants ne sont pas concernés de cette vaccination, alors que le ministre de la Santé et de l'EPST avait affirmé que les enfants sont le vecteur même du COVID-19 hors de la fermeture des écoles?
Docteur Michel Mouvoudi.
Alors, merci, Monsieur Guy. Très rapidement, je suis d'accord avec vous qu'il y a pas mal d'opinions, il y a pas mal de perceptions par rapport à cette question de vaccination. Raison pour laquelle nous, on est très ouverts et on essaie de répondre au maximum aux questions que la population se pose. Et c'est le rôle que nous devons jouer en tant que professionnels de santé, en tant qu'experts en santé publique. Et ça, c'est très important parce que nous ne devons pas laisser la population sur des questions. Ça, c'est un élément important. Un autre élément, c'est que, vous le savez bien, M. Guy, lorsque la pandémie a commencé, déjà en RDC, hein, on se le dise, les gens ne croyaient pas qu'il existait la COVID-19. On a dû beaucoup travailler pour que les gens comprennent. Et je suis convaincu que si on intensifie la communication, y compris pour la question de vaccination, on aura des succès, on aura des progrès. Donc, et encore une fois de plus, c'est un travail collectif. Mais là où je voudrais toucher du doigt la question de notre ami de Kisangani, c'est en fait la raison. Les gens se posent des questions parce que l'échiquier mondial montre quand même qu'il y a assez de débats sur la vaccination. Pas seulement en RDC, suivez ce qui se passe au Ghana, en Afrique du Sud, au Sénégal. Et donc c'est important que nous continuions à rassurer la population et surtout nous devons rester transparents avec elle. Et c'est comme ça justement qu'on essaie de partager suffisamment d'informations pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. D'autant plus qu'il y a encore beaucoup de développement sur ce domaine de la vaccination. Il y a encore beaucoup d'autres candidats vaccins qui sont en train d'arriver. Donc ça, c'est très important. Mais il faut que les gens comprennent que la vaccination n'annule pas les autres mesures de prévention. Les mesures barrières vont continuer. N'oubliez pas que dans ce pays ou dans le monde, on a des maladies pour lesquelles on vaccine. Mais on continue quand même à se protéger contre ces maladies avec d'autres outils. Donc même si on va vacciner, on ne dit pas qu'il faut, ne faut plus respecter les mesures barrières, ainsi de suite. Donc, la vaccination est en plus un instrument pour pouvoir diminuer la propagation du coronavirus. Donc, encore une fois de plus, les autres éléments restent. Troisièmement, sur les questions qu'il pose en termes de cible, si vous regardez les statistiques qui sont partagées par le secrétariat technique, vous allez vous rendre compte du fait que, en termes de mortalité, en termes de morbidité, les enfants sont peu touchés, ok? Je parle en termes de mortalité, la gravité. Alors, on commence quelque part. Il n'est pas dit que demain, on ne peut pas vacciner les enfants. C'est pas encore dit. Potentiellement, avec le temps, on dira, mais oui, vu les recherches, incluant aussi des enfants. Mais là, on touche d'abord ce qu'on appelle les populations à risque. C'est une échelle de priorité. On commence avec les personnes les plus exposées. Les personnes qui succombent le plus, mais ça ne dit pas qu'on ne va pas aller plus loin. Ça, c'est très important. Mais maintenant, quand on vaccine les autres, les mesures de protection, les mesures de prévention restent généralisées. Encore une fois de plus, l'idée c'est d'avoir ce qu'on appelle une immunité collective qu'on pourrait obtenir lorsqu'on dépasse un certain niveau de taux de vaccination. On parle de plus de 60% de la population, mais encore une fois de plus, on continue à observer les gestes barrières. Donc je voudrais que les gens comprennent que la vaccination ne va pas seule, la vaccination n'est pas le bâton magique, mais justement la vaccination sera couplée à d'autres outils pour pouvoir augmenter, n'est-ce pas, la lutte contre la propagation du coronavirus.
Merci docteur Vincent Okoyo. Vous allez aussi réagir à cette réflexion de Junior Bompongo qui nous appelle depuis Mbandaka.
Junior Bompongo à partir de la ville de Mbandaka. La population congolaise a le droit d'avoir toute la lumière sur cette campagne de vaccination qui est d'une grande portée sanitaire. Je m'inscris dans cette démarche car il s'agit des vies humaines qu'il faut préserver et on sait bien que ce type de vaccin n'avait pas profité d'une belle publicité depuis sa mise en circulation. Et c'est sans compter ses effets secondaires où les études cliniques n'ont pas encore trouvé un bruit de sirène. Malgré que nous pouvons encourager l'effort du gouvernement et la négation de la communauté internationale, vite que les cicatrices de nos frères et ceux qui ont péri de cette pandémie.
Docteur Vincent Okoyo. Allô, docteur Vincent Okoyo. Apparemment, on l'a perdu. Danis Ngoma, vous allez réagir en attendant qu'on puisse rappeler docteur Vincent Okoyo. Vous allez réagir, Danis Ngoma, à cette réflexion qui vient de Fikiri Tchomba qui nous appelle depuis Bukavu au sud Kivu.
Fikiri Tchomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du sud Kivu. Pour moi, on a mis la charrue avant le bœuf et je me demande qu'est-ce qui se cache derrière cette précipitation. La RDC devait d'abord sensibiliser sa population qui ne croit même pas à l'existence de cette pandémie avant de prétendre faire une vaccination de masse. À mon avis, la campagne de vaccination contre la COVID en RDC est sur une pente puissante et risque d'être un échec cuisant. Quand bien même ce vaccin n'est pas obligatoire, si l'on ne prend pas garde, on risque de travailler en vain et surtout que les rumeurs gagnent du terrain.
Dani Singoma.
Merci beaucoup, cher Fikiri, par rapport à cette réflexion. Bon, un peu raison par rapport à ce qu'il dit, mais on peut faire d'une pierre deux coups pendant que le vaccin est là et intensifier la communication. Donc nous ne pouvons pas rester à pleurnicher sur ce qui est déjà passé, mais il nous faut maintenant prendre les taureaux par les cornes pour le moment. Donc nous avons toujours dénoncé cette question de communication, bien sûr elle s'améliore, mais il y a toute la question, comme je l'ai dit, entre guillemets, de la politisation de la communication. Il faudrait que la communication soit vraiment fluide et associer la population à la communication, donc à travers les organisations de la société civile. Donc aujourd'hui, avec ces vaccins, il y a possibilité à ce qu'ils soient bien acceptés, mais être accepté n'est pas la finalité. Pour nous, au niveau de la société civile, être accepté n'est pas la finalité, mais c'est être convaincu de l'efficacité du vaccin et d'être convaincu de ce que ce vaccin ne soit pas nocif. C'est ça notre cheval de bataille. Ça veut dire qu'on ne peut pas simplement nous faire accepter les vaccins, mais il faut qu'on nous amène des preuves que réellement ces vaccins sont utiles, qu'ils ne sont pas nocifs. Et en plus de cela, ce n'est pas simplement pour ces premiers lots, c'est pour tous les autres lots qui vont venir. Parce que comme on dit, tout le monde se précipite maintenant et il y aura peut-être une bataille entre les différents types de vaccins qui vont arriver et nous serons débordés par rapport à cela. Ça sera comme un menu, lequel choisir, lequel coûte moins cher, lequel coûte plus cher et tout ça. Donc il nous faudra vraiment avoir des assurances par rapport à cette question et ça c'est l'exigence de la société civile à travers les mécanismes que nous voulons déployer et cela à tous les niveaux pour que la population congolaise soit préservée sur les plans psychologiques, sur les plans sanitaires et sur tout autre plan.
Docteur Vincent Okoyo, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, nous allons écouter rapidement cette réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Mbandaka.
Junior Bompongo à partir de la ville de Mbandaka. La population congolaise a le droit d'avoir toute la lumière sur cette campagne de vaccination qui est d'une grande portée sanitaire. Je m'inscris dans cette démarche car il s'agit des vies humaines qu'il faut préserver Et on sait bien que ce type de vaccin n'avait pas profité d'une belle publicité depuis sa mise en circulation. Et c'est sans compter ses effets secondaires où les études cliniques n'ont pas encore trouvé un bruit de sirène. Malgré que nous pouvons encourager l'effort du gouvernement et l'abnégation de la communauté internationale, vite que les cicatrices de nos frères et ceux qui ont péri de cette mort fraîche dans nos mémoires.
Docteur Vincent Okoyo, votre réaction?
D'abord, je félicite le compatriote pour sa réflexion positive et responsable, hein, parce que, en fait, nous devons retenir que le gouvernement se donne un challenge très important. C'est un véritable challenge et je vois mal comment un gouvernement responsable peut se jeter dans un hasard qui pourrait apporter la mort à sa population. Effectivement, nous avons un appel à lancer à la population dans le sens de dire que nous devons faire confiance à notre gouvernement, faire confiance à l'ensemble d'experts que le gouvernement va mobiliser, mais il reste que le gouvernement devra communiquer et le défi de communication est très important parce que la population congolaise a droit de savoir exactement à qu'est-ce qu'elle consomme. Et pour le bien de cette population, pour le bien de la santé, le gouvernement se donne un challenge, mais a un défi important de communiquer et de communiquer dans le sens de rassurer la population.
Merci. Docteur Michel Mouvoudi, nous sommes à la fin de l'émission. Vous êtes dans cette structure, n'est-ce pas, de sensibilisation de la population. Un message à l'endroit de toute la population congolaise pour d'abord la rassurer. Et puis, n'est-ce pas, la pousser à adhérer à cette campagne de vaccination. Ça sera sous votre conclusion.
Merci, M. Guy. Donc, non, le mot, je pense que c'est d'abord dire merci à notre population qui nous a toujours accompagnés depuis la nuit de temps quand nous sommes devant de telles situations et inviter cette population, encore une fois de plus, à faire confiance aux experts en santé publique que nous sommes, à faire confiance au ministère de la Santé. Parce qu'en fait, nous allons travailler dans le souci de mettre fin à la propagation du coronavirus. Encore une fois de plus, nous voulons son acceptation, nous voulons son engagement. Nous n'allons rien faire de manière brutale, nous allons travailler avec cette population. Et aujourd'hui, tous les résultats que nous avons eus en matière de lutte contre les maladies, nous les avons eus avec cette population. Donc aujourd'hui, la vaccination, encore une fois, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater pour pouvoir mettre fin à la propagation du coronavirus et permettre à ce que nos populations soient rentables au développement et que la vie reprenne normalement.
Merci, docteur Mouvoudi. Dani Singoma, un mot en guise de conclusion.
Ok, bon, en guise de conclusion, donc je vais réaffirmer ce que j'ai dit, et qu'il faut qu'il y ait vraiment une bonne communication, il faut rassurer la population, il faut qu'on nous prouve l'efficacité. Le gouvernement est responsable, nous l'admettons. Notre gouvernement a fait beaucoup d'efforts jusqu'à obtenir ce qu'il a pu obtenir et ce qu'il va encore obtenir, mais aussi n'oublions pas qu'il y a eu beaucoup d'autres dégâts qui se sont passés. On a connu ici des firmes pharmaceutiques qui nous ont produit des médicaments, ici même sur place à Kinshasa, et qui n'étaient pas valables et qui étaient très nocifs à la santé. Donc il faut corriger cela, il faut une bonne collaboration entre le gouvernement et la société civile, afin de pouvoir faire que les choses puissent avancer dans le bon sens et pour l'intérêt de notre population en général.
Docteur Vincent Okoyo, un mot en guise de conclusion. Il faut rassurer la population. On rappelle ici que vous êtes même en vacances parlementaires. Il faut d'abord commencer par rassurer, n'est-ce pas, par convaincre vos électeurs avec qui vous êtes actuellement. Et qu'est-ce que vous diriez à ces électeurs?
À ces électeurs, exactement, Guimard, vous êtes bien informé. À ces électeurs, j'ai dit, nous avons perdu des personnes précieuses dans ce pays. Et que nous devons mettre à profit tous les moyens qui peuvent nous permettre de contrôler la propagation du Covid et d'éviter des morts supplémentaires par rapport à cette pandémie de Covid-19.
Merci beaucoup, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor Basunga qui était à la technique, et à Kelly Nkute et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suivi de programme sur Radio Capi.